nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce jeudi 12 octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien a rappelé aux organisations internationales leur responsabilité dans la gestion de la crise dans la bande de Gaza. Au sixième jour de l'opération de la résistance Temple d'Al-Aqsa, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre des martyrs de Gaza était passé à 1 200 personnes. 5 600 autres ont été blessés. Et la France criminalise toute expression publique de soutien à la résistance palestinienne. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. La présidence iranienne a rappelé aux organisations internationales leur responsabilité dans la gestion de la crise dans la bande de Gaza, en proie aux atrocités infligées par le régime sioniste. S'adressant mercredi 11 octobre à une séance du cabinet, le président iranien Ebrahim Raisi a fermement condamné les crimes du régime sioniste contre la population civile de Gaza. Les sionistes commettent, sous le regard du monde entier, des crimes contre l'humanité. Toutes les organisations et institutions internationales doivent remplir leurs obligations à cet égard, sans aucune exception ni discrimination, a-t-il souligné. Israël a lancé samedi des frappes meurtrières sur la bande de Gaza, sous blocus après que le Hamas a mené une opération surprise baptisée Tempête Al-Aqsa contre le régime occupant. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yoav Gallant, a annoncé un renforcement du blocus qui empêcherait même la nourriture et le carburant d'atteindre la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes. Des groupes de défense des droits humains et des organisations internationales ont fustigé les bombardements aveugles contre Gaza et son siège total par le régime sioniste, délaissant une population entière sans eau, sans électricité et sans produits de première nécessité. Les autorités de Gaza affirment que l'enclave est confrontée à une catastrophe humanitaire imminente. La centrale électrique s'étant complètement arrêtée en l'espace de quelques heures en raison de l'épuisement du carburant. Téhéran a rejeté les allégations anti-iraniennes soulevées par les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe Persique, CCGP, et de l'Union européenne, réitérant sa pleine souveraineté sur les trois îles du Golfe Persique d'Abu Moussa, de la Grande Tombe et de la Petite Tombe. Prenant la parole mercredi 11 octobre, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a une nouvelle fois souligné la souveraineté permanente du pays sur les trois îles, affirmant qu'elle constitue une partie intégrante et éternelle du territoire iranien. Ceci fait suite à la 27e réunion ministérielle et du conseil conjoint CCGP-UE qui s'est tenue dans la capitale omanaise, Mascat, les 9 et 10 octobre. Et dont le communiqué final fait état de son inquiétude face à l'absence de progrès dans la résolution du différend entre les Émirats arabes unis et l'Iran, au sujet des trois îles du Golfe Persique. Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe font historiquement partie de l'Iran, comme en témoignent d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et ailleurs dans le monde. Cependant, les Émirats arabes unis ont revendiqué à plusieurs reprises la souveraineté de ces îles. Les îles tombèrent sous contrôle britannique en 1921, mais le 30 novembre 1971, un jour après le départ des forces britanniques de la région et deux jours avant que les Émirats arabes unis ne deviennent une fédération officielle, la souveraineté de l'Iran sur les îles fut restaurée. Dans leur communiqué, les ministres du CCGP et de l'Union européenne ont exhorté l'Iran à remplir ses obligations nucléaires et à cesser la prétendue prolifération des missiles balistiques, des véhicules aériens sans pilote et d'autres armes. Rejetant les accusations concernant les activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, Nasser Kanani a précisé que Téhéran a toujours adhéré aux droits et aux engagements internationaux et poursuit sa coopération constructive avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la base de l'accord de garantie généralisée. Ailleurs, dans ses remarques, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que la puissance militaire et la capacité de défense de l'Iran ont visé à renforcer le pouvoir de dissuasion du pays, à maintenir la sécurité nationale et à établir la stabilité régionale. Exprimant la ferme détermination de l'Iran à avoir une région stable, sûre et prospère grâce à la coopération avec ses voisins et sans ingérence étrangère, le haut diplomate iranien s'est attardé sur le rôle de premier plan de l'Iran dans le renforcement de la sécurité dans la région, en luttant contre le terrorisme et en consolidant la sécurité maritime. Nasser Kanani a également évoqué l'ingérence destructrice de certains pays européens dans la région du Golfe Persique, affirmant qu'ils ont vendu des milliards de dollars d'armes aux États de la région dans le but de prolonger les tensions et d'obtenir des avantages commerciaux. Qualifiant de prometteurs les développements régionaux au cours de ces derniers mois, le porte-parole iranien a considéré la poursuite de la diplomatie et du dialogue comme étant le meilleur moyen de renforcer la coopération conformément aux intérêts communs. La brigade Al-Rots, branche militaire du djihad islamique de la Palestine, a repris le tir de ses roquettes sur Tel Aviv et plusieurs autres colonies israéliennes. Des sources palestiniennes ont fait état de nouveaux tirs de roquettes des brigades Al-Rots sur Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon et d'autres colonies à proximité de la frontière de la bande de Gaza. La chaîne d'information Al-Mayadin a fait état du retentissement des sirènes d'alerte à Ashkelon et Sderot, mais aussi à Kibbutz, Nirim et Nir Am. Les médias israéliens ont rapporté que les sirènes d'alerte ont retenti aussi dans les régions du nord de la Palestine occupée, à proximité de la frontière avec le Liban, en raison d'infiltration. La chaîne 12 de la télévision israélienne a estimé qu'au moins 15 parapentes s'étaient infiltrés à l'intérieur de la Palestine occupée en traversant la frontière libanaise. La chaîne Al Jazeera a rapporté que des avions de combat et de surveillance du régime sioniste ont survolé ensuite la frontière de la Palestine occupée avec le Liban. Le ministre français de la Justice a déclaré que toute forme de soutien public à la résistance contre le régime sioniste constitue un délit pénal. Dans une circulaire datée de mardi, Éric Dupond-Moretti a estimé que la survenance de l'opération du Hamas le 7 octobre est susceptible d'entraîner une multiplication des délits antisémites. Des rassemblements ont été organisés dans le pays en soutien aux Palestiniens. Une centaine de personnes ont participé mercredi soir à Lyon à une manifestation en soutien au peuple palestinien, interdite par la préfecture du Rhône, qui avait pointé un risque sérieux de troubles à l'ordre public. Palestine vivra, Palestine vaincra, ou Israël assassin, ont scandé les manifestants, en majorité des jeunes, parfois munis de drapeaux palestiniens. Peu après 18h30, les manifestants ont été dispersés par la police qui avait mis en place un important dispositif et a fait usage de gaz lacrymogène. Mercredi soir également, des drapeaux palestiniens ont fleuri place de la Victoire à Bordeaux. Ils étaient 150 selon les organisateurs, une soixantaine selon les autorités. Des familles avec enfants et poussettes, des étudiants et des retraités venus dire leur soutien à la résistance du peuple palestinien, comme on pouvait le lire sur une grande banderole accrochée à la porte d'Aquitaine. Cette manifestation était pourtant interdite par la préfecture de la Gironde, qui craignait des troubles à l'ordre public. Le ministre de la Justice a appelé à des poursuites pénales contre toute expression publique de messages pouvant interpréter les attaques du Hamas comme une forme légitime de résistance contre Israël. Toute atteinte à l'intégrité physique des personnes de la communauté juive, toute atteinte au lieu de culte ou encore tout propos susceptible de constituer une apologie du terrorisme, une provocation directe à des actes de terrorisme, doit faire l'objet d'une réponse pénale systématique, a dit le ministre en son court document de 3 pages. Agir un drapeau du Hamas lors d'une manifestation peut constituer un délit d'apologie du terrorisme, selon l'ancien avocat pénaliste. Les propos faisant l'éloge des attentats, les présentant comme une résistance légitime contre Israël, ainsi que la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique, constituent également des infractions pénales, a-t-il encore ajouté. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. massacrer Gaza. Le monde entier manifeste sa solidarité. Des habitants de plusieurs pays du monde ont organisé des manifestations de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, alors que les bombardements du régime israélien sur ce territoire densément peuplé se poursuivent. Des manifestations ont eu lieu dans divers pays d'Asie de l'Ouest, ainsi que dans de nombreux autres pays du monde, où les participants ont scandé des slogans en faveur de la cause palestinienne en dénonçant les atrocités du régime sioniste. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi 11 octobre devant le camp de réfugiés de Burj Al Barajna à Beyrouth pour soutenir le peuple de Gaza. Les villes irakiennes, dont Najaf, ont également été témoins de manifestations de condamnation d'Israël et de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Des centaines de Jordaniens sont descendus dans les rues du centre-ville d'Amman mardi soir en signe de solidarité avec Gaza. Les manifestants ont également organisé un rassemblement pro-palestinien non autorisé à Nîmes, dans le sud de la France. À Berlin, des gens sont descendus dans la rue pour soutenir la Palestine, même si la police avait interdit la marche. De petites échauffourées ont éclaté entre la population et les forces de police. Les gens sont également descendus dans les rues de Bruxelles, la capitale belge, pour exprimer leur soutien à Gaza. En Corée du Sud et au Japon, des rassemblements ont aussi eu lieu. À Séoul, des centaines de personnes, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, ont organisé un rassemblement devant l'ambassade israélienne pour dénoncer le régime qui opprime les Palestiniens. À Tokyo, des dizaines de personnes se sont rassemblées près de l'ambassade israélienne pour appeler à la fin des bombardements israéliens sur Gaza. Beaucoup d'entre eux portaient des pancartes avec des inscriptions en anglais et en japonais, appelant à la paix et à la fin de la violence. Les manifestants à Manille, la capitale des Philippines, ont organisé mercredi une veillée aux chandelles pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens. Ils ont dénoncé les atrocités israéliennes et le soutien américain au régime de Tel Aviv. Des centaines de personnes de différents groupes islamiques indonésiens se sont également rassemblées devant l'ambassade américaine à Jakarta pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien. Au Cap, la capitale sud-africaine, la campagne de solidarité avec la Palestine a organisé une manifestation devant le bureau consulaire israélien. Des partisans pro-palestiniens au Chili et au Brésil se sont également rassemblés mardi pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens et appeler à la paix. À Santiago, la capitale du Chili, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, brandissant des drapeaux et des banderoles appelant à mettre fin au massacre d'enfants. Des Brésiliens ont également participé à une manifestation à Brasilia, appelant la communauté internationale à mettre fin au conflit. Le nombre de martyrs palestiniens dans l'attaque généralisée du régime sioniste a atteint 1200 Palestiniens morts, avec un nombre de blessés ayant atteint les 5600 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la récente opération anti-israélienne menée par les Palestiniens, bien sûr, est qualifiée selon le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, de séisme destructeur. Alors, les Israéliens jouent la carte de la victime. La question est de savoir pourquoi les Palestiniens se sont soulevés. Et quels étaient les crimes commis par les Israéliens au cours de ces décennies qui ont poussé justement les Palestiniens à agir ainsi? Alors, en effet, c'est une défaite irréparable, que ce soit sur le plan militaire et que renseignement. Et nous aurons des invités très spéciaux qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, qualifie de séisme destructeur la récente opération anti-israélienne menée par la résistance palestinienne. Le très haut dirigeant iranien a déclaré que l'opération avait dévasté certaines des structures de base de l'occupation sioniste et l'a qualifiée de défaite irréparable pour Israël sur plan de renseignement et de militaire. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que ceux qui pointent du doigt les non-palestiniens d'être impliqués dans l'opération de la résistance commettent des erreurs. Il a souligné que les dommages infligés à Israël lors de l'opération surprise des Palestiniens étaient le résultat des propres actions du régime.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau le débat. Deux experts des questions internationales, en commençant par Mme Aïssar Midani, analyste et intellectuelle franco-syrienne qui nous joint depuis Damas. Mme Midani, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour à toute l'équipe Presse TV et à votre invité. Oui, et à tous les spectateurs de Presse TV aussi.
Je vous remercie, Mme Midani. Un grand bonjour à M. le Dr Emadeddine Hamrouni, expert franco-tunisien, un spécialiste du Moyen-Orient qui est avec nous depuis Paris. Bonjour, M. Hamrouni.
Bonjour à vous, à votre cher invité et à nos chers téléspectateurs.
Un débat qui s'annonce prometteur. Nous parlons bien sûr de la récente opération anti-israélienne menée par les Palestiniens qui a été qualifiée justement par le guide suprême de la révolution islamique de séisme destructeur. Alors ma première question va s'adresser à Aïssar Midani qui est avec nous depuis Damas. Madame Midani, qu'est-ce qui a poussé les Palestiniens d'agir ainsi et de se soulever ?
Je crois qu'il était temps, en fait, effectivement, qu'ils se soulèvent pour répondre, pour riposter contre l'ensemble des exactions qui sont exercées par les Israéliens, par les colons, par tous les Israéliens, en fait, aussi bien les colons que les autorités israéliennes, alors aussi bien dans le non-respect, le piétinement de la mosquée Al-Aqsa, aussi bien dans la violation de tout ce qui est les femmes, les enfants, etc. Des femmes palestiniennes ont été traînées par les cheveux, déshabillées dans les prisons, etc. Et en fait, donc c'était aussi une volonté de ces Israéliens, de l'occupant israélien, de humilier les femmes, les enfants, les hommes palestiniens, même dans la mosquée Al-Aqsa. Ajouté aux exactions aussi pratiquées contre les détenus en prison, où il y a systématiquement des attaques et des atteintes. Ils sont battus systématiquement, leurs cellules sont violées, ouvertes à tout va, à la volonté de n'importe quel gardien de prison. Ils sont battus, le refus du traitement médical aux détenus, quand ils sont malades, et aussi sans parler de l'ensemble aussi des exactions quotidiennes commises contre eux. Ajoutez alors aussi aux exactions qui sont pratiquées contre toute la population par les violations de domicile, les violations des quartiers, la destruction de domicile, même pire encore, obliger les gens à détruire eux-mêmes leur maison. Et donc toutes ces exactions qui visent à pousser les Palestiniens hors de leur pays pour que l'occupant israélien s'empare de la terre. Je n'ai pas parlé, bien entendu, et c'est aussi le cas de toutes les destructions des agricultures, des destructions des arbres fruitiers, les destructions des oliviers, l'arrachage des terres. Ajouter aussi aux destructions de villages entiers qui ont pour certains été détruits 100 fois et 100 fois reconstruits par les Palestiniens. Donc, en fait, là, c'est vraiment le vase est très plein, malgré toute la raison dont se sont armés les Palestiniens. Ils ont quand même menacé, ils ont mis en garde à plusieurs reprises, mais il n'en était rien. Les Israéliens ne continuent que plus belle dans les exactions contre le peuple palestinien.
Absolument. Emma Dedin Hamrouni, vous êtes avec nous depuis Paris. Vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient. Alors, comme a dit Mme Aïssar Midani, on peut parler des heures et des heures sur la question des crimes commis par les Israéliens au cours de ces décennies contre le peuple palestinien. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, je vous prie?
D'abord, permettez-moi de féliciter la bravoure et le courage du peuple palestinien et des combattants palestiniens qui combattent pour la liberté, pour la dignité du peuple palestinien contre un régime criminel, colonial, soutenu par les puissances occidentales. La Palestine, aujourd'hui, elle ne résiste pas simplement face à un régime criminel, face à une bande des criminels et des terroristes, mais elle résiste face aux États-Unis. C'est les États-Unis qui amènent ces porte-avions. Ce n'est plus Israël qui combat Gaza. C'est les États-Unis qui combattent Gaza. Donc ce régime criminel qui est basé sur les crimes, en 1948, c'est la Haganah, c'est les groupes terroristes juifs qui ont détruit les Arabes, les chrétiens, les musulmans et même les Britanniques de l'époque. Donc la nature même de ce régime, c'est un régime criminel terroriste. Et depuis 1948, le peuple palestinien lutte et résiste. 48, après on a vu 67, la guerre des six jours, et on a vu après toutes les exécutions de ce régime, avec des massacres, le Deir Yassin, Tal Zat et plein d'autres. Et ce régime n'a pas arrêté sur les frontières palestiniennes, il est allé vers l'Égypte, il est allé vers le Liban, il a bombardé l'Irak, il a exécuté des Palestiniens en Tunisie. Donc ce régime, c'est un régime... On le voit là aujourd'hui, en parlant là, cette minute, là maintenant, il est en train de bombarder, de tuer des enfants et des femmes. Il y a 1000 martyrs à Gaza depuis deux jours, 70% sont des femmes et des enfants. C'est ça la nature du régime que Mme Borne en France soutient, que M. Macron soutient, que M. Biden soutient, que les Allemands soutiennent. Donc on est en face vraiment d'une catastrophe humanitaire soutenue par les régimes occidentaux. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je vis ici en France, on dirait que je vis en Israël. Tous les plateaux télé français, on dirait
Monsieur
que Amrouni, les morts...
Monsieur Hamrouni, excusez-moi de vous interrompre, toujours à vous. Donc, déjà, pourquoi les pays que vous avez cités à la tête de ça, donc les États-Unis, soutiennent les crimes commis par les Israéliens au cours de ces décennies? Et maintenant, on voit des images très fortes encore de ces crimes qui continuent, et les Israéliens jouent la carte de la victime pour attirer plus d'aide possible. Et justement, ils aident Israël. Pourquoi, à votre avis, M. Hamrouni?
Chers amis, ces régimes, ils se sont basés sur l'extermination du peuple, des peuples autochtones des États-Unis et du Canada. C'est-à-dire, ils ont massacré plus que 60 millions d'Indiens. Donc, c'est des régimes... coloniaux, c'est des régimes basés sur les massacres, sur l'extermination. Il faut rappeler que Gaza, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Aujourd'hui, il y a un blocage total sur Gaza, il y a 2 millions de personnes qui vivent dedans, et on veut exterminer. Le mot n'est pas simple. On est en face d'extermination d'une population, et Mme Borne, elle demande... à soutenir un régime criminel avec l'argent du contribuable français. Et il y a des centaines de Français sionistes qui se dirigent aujourd'hui même vers l'État Israël pour massacrer des enfants et des femmes en Palestine, dans le banc de Gaza. C'est ça la démocratie occidentale. La démocratie occidentale, aujourd'hui, elle n'existe plus. On voit la catastrophe humaine. Les Palestiniens se défendent, les Palestiniens résistent face à un régime colonial. Est-ce qu'on va demander à la résistance française pourquoi vous vous êtes résisté face à l'ennemi allemand? Est-ce qu'on va demander aux Ukrainiens, par exemple, aujourd'hui la France, les États-Unis et l'Angleterre soutiennent le peuple ukrainien parce qu'il y a une invasion russe? Alors pourquoi on ne soutient pas le peuple palestinien? Donc la réponse à votre question, c'est que Israël elle est plus importante pour eux que toute l'humanité ensemble.
Tout à fait.
On est face à un mouvement sioniste mondialisé qui veut exterminer l'être humain, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les Palestiniens simplement qu'on est en train de l'écraser. On veut faire taire même celui et celle qui dit « Moi, je suis contre le massacre des hommes et des femmes innocents ». Aujourd'hui, Mme Borne, elle veut mettre en prison des députés français. Pourquoi ? Parce qu'ils soutiennent la résistance palestinienne. Pourquoi ? Parce qu'ils dénoncent les massacres en Palestine. Rien que ça, eh ben, Mme Borne, elle veut qu'on dénonce M. Mélenchon parce que M. Mélenchon, il est antisémite.
Tout à fait.
Voilà la réalité de la démocratie occidentale d'aujourd'hui.
Une très mauvaise réalité. Aïssa Armidani, je voyais tout à l'heure que vous confirmiez ce que M. Amrouni voulait dire. Est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Ah oui, tout à fait. Alors, en fait, tout l'Occident soutient, tout l'Occident, en fait, l'OTAN, les États-Unis, tous les pays coloniaux, en fait, soutiennent Israël parce que c'est leur bébé. Et c'est là qu'ils ont créé, c'est eux qui ont créé cet État fantoche sur les débris du peuple palestinien. Ils ont commencé par alimenter des groupes terroristes qui sont Shtern, Haganah et Irgun, tristement célèbres, qui jusqu'à aujourd'hui ils sont sur les listes noires quand même de l'ONU, et puis c'était aussi sur la Société des Nations avant, qui ont commis des milliers de massacres en Palestine visant à pousser la population à l'exode. Mais aussi, donc, après, avec la complicité du régime britannique, ils ont fait un mandat sur la Palestine, et qui a permis justement l'armement de tous les sionistes qui filtraient, qui arrivaient massivement des pays occidentaux, et qui interdisait justement aux Palestiniens de se défendre à l'époque, et ce qui a fait des massacres absolument inouïs. M. Amrouni en a cité quelques-uns, et je crois que la liste est très longue si on veut citer l'ensemble des massacres. C'est le pied de l'occupant américain ou de l'occupant occidental au Moyen-Orient, qui vise effectivement à séparer tous les pays arabes, à empêcher qu'il y ait une unité, à empêcher qu'il y ait une complémentarité sur le plan économique. Donc ce pays artificiel, qui n'est pas un pays, c'est un pouvoir fantoche qui a été planté de toutes parts dans cette partie du monde, qui est la partie la plus importante, je dirais, au point de vue, elle est importante stratégiquement par sa position stratégique, par le fait qu'il y a tout autour toutes les ressources pétrolières importantes. Il y a quand même une grande proportion des ressources pétrolières du monde qui se trouvent dans la région, si on pense à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, aux pays du Golfe, à l'Irak et la Syrie et le Liban. Donc, en fait, tout ceci, c'était prévu et c'est étudié. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, par toutes ces exactions qui sont contremenées de manière très systématique et méthodique contre la population palestinienne, visent à pousser la population palestinienne en dehors de leur pays, et pour que ces colons s'approprient le pays. Ces colons qui sont de tous les pays du monde, ils ont aussi, je dirais, instrumentalisé la religion juive, instrumentalisé une partie de la religion chrétienne aussi par les néoconservateurs qui sévissent aux États-Unis. Ils ont fait croire au monde que les juifs, c'est le sionisme, etc. Alors qu'il y a énormément de juifs qui sont anti-sionistes et qui sont eux-mêmes la première victime, je dirais, du sionisme, parce qu'ils sont instrumentalisés. Et en fait, là aujourd'hui, il y a toujours des narratifs complètement mensongers du style « c'est un pays, peuple sans pays, mais un pays qu'on veut mettre dans un pays ». sans peuple, comme quoi, comme si la Palestine n'existait pas, comme si les Palestiniens n'existaient pas. Netanyahou continue d'ailleurs à défendre cette thèse, même au sein de l'ONU, avec toute abjection, en montrant des cartes sur lesquelles la Palestine n'existe pas. Israël n'a pas de frontières, elle a des frontières dynamiques, ils ne cachent pas leur projet de pouvoir dominer la totalité du Moyen-Orient, de l'Euphrate jusqu'au Nil. Ils ne cachent pas leur projet, d'ailleurs, de vouloir dominer la totalité du monde aussi. Donc, tout ceci, en fait, va dans le sens, mais dans le sens de quoi? Dans le sens de l'hégémonisme américain qui s'appuie sur un pied, qui est le sionisme dans notre région et
absolument,
qui est Israël.
Tout à fait.
Donc, voilà.
Oui. Le docteur Hamrouni, vous avez entendu certainement les propos de Mme Midani, vous êtes certainement d'accord avec ses propos, mais parlons de l'audace d'Israël. Jusqu'où va continuer cette audace? Jamais Israël n'a commis de tels crimes, donc à ciel ouvert, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Parlons de l'avenir, les jours à venir. Vous avez loué donc, le courage des Palestiniens, des soldats palestiniens qui se battent jusqu'à la mort. Mais que réserve donc l'avenir pour les Palestiniens?
En tout cas, il se bat pour la vie. Aujourd'hui, les combattants arabes et les combattants palestiniens ne se battent pas pour mourir, ils se battent pour vivre. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État criminel, le régime criminel israélien, il appelle ses réservistes 400 000. Hier, ils étaient 350 000, à peu près 400 000. Les porte-avions américains arrivent. Tous les pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, ils vont envoyer de l'armement. Donc, est-ce que tout ça contre la bande de Gaza qui est 365 km², la moitié de l'île de Saint-Denis? Il faut comprendre aujourd'hui que c'est fini, M. Netanyahou. Dans quelques jours, peut-être les Israéliens vont juger Netanyahou sans gouvernement, et dans quelques mois, on va retrouver Netanyahou dans une prison israélienne. Parce que le premier responsable de ce qui s'est passé à l'intérieur même de la Palestine occupée, c'est Netanyahou. Donc il faut aussi dénoncer toute exécution des civils, que ce soit israélien ou que ce soit palestinien. Par contre, cette opération militaire bien synchronisée, organisée techniquement par les Palestiniens, montre que c'est fini pour l'armée du Sahel. Moi, excusez-moi, parce que depuis trois jours, sur les plateaux français, je vois les visages des journalistes et des hommes politiques français. On dirait que la guerre, elle est à Lyon, elle est à Bordeaux, elle est à Paris. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la fin de l'armée de Tsahal. C'est pour cette raison que l'Amérique arrive elle-même pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, on va avoir des commandos américains, on va avoir des commandos britanniques, on va avoir de l'intelligence française. Aujourd'hui...
Oui, justement, d'après ce que vous dites, donc, le guide suprême de la révolution islamique a qualifié donc cette récente opération de défaite irréparable et de séisme destructeur. C'est exactement ce que vous dites, n'est-ce pas?
Exactement, c'est un échec militaire, c'est un échec de renseignement. Et jusqu'à trois jours, ça fait trois, quatre jours maintenant, et les Israéliens sont sous la surprise, sous l'effet de la surprise. Ils ne savent pas, est-ce qu'ils vont entrer, est-ce qu'il va y avoir une attaque terrestre israélienne ou pas? Ils hésitent, ils n'arrivent pas à se décider. Est-ce que le Hezbollah au Liban va entrer donc plus fort? Il a commencé il y a deux jours. Est-ce que les Irakiens vont entrer aussi? Et est-ce que surtout, c'est les Yéménites qui ont déclaré que si les Américains rentrent directement en guerre contre la Palestine, eh bien, les Yéménites, ils vont rentrer directement en guerre à côté des Palestiniens. Donc, aujourd'hui, les États-Unis et Israël, ils sont mis en échec. J'ose même pas dire échec et mat, parce que c'est un jeu. Et aujourd'hui, c'est la première fois depuis 50 ans qu'on voit les Américains et les Israéliens dans un état de défense. Ce n'est pas dans un état d'attaque. Avant, ils nous attaquent. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit une partie du Liban. Donc, à chaque fois, nous, c'est-à-dire les Arabes ou les musulmans, nous sommes dans une position de défense. C'est la première fois où on est dans une opposition d'attaque. Donc, on a pris l'initiative d'aller chez eux. Et ça, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est pour cette raison, même tactiquement, les Israéliens ne savent pas comment faire.
Absolument.
Et donc,
oui.
L'intelligence palestinienne, elle a dépassé l'intelligence israélienne.
Tout à fait. Aïssa Armidani, vous aurez le dernier mot de ce débat. En 2 minutes, je vous prie, résumé.
Je pense que, de toute façon, les Palestiniens vont gagner et puis on va vers des jours meilleurs, en fait, dans toute la région, parce que c'est l'échec total d'Israël. C'est sa défaite aussi. Et ils ont beaucoup joué avec le feu et ils ont toujours été mis en garde aussi bien par la résistance palestinienne, par le Hezbollah, par l'axe de la résistance. Et là, aujourd'hui, je crois que ils jouent leur fin. Et finalement, c'est tant mieux. Je veux dire, c'est super. Et j'espère que nous allons, en fait, que l'ensemble des forces de l'axe de la résistance vont s'allier aux Palestiniens au moment venu pour mettre en échec total Israël et ses alliés dans la région.
Aïssa Armidani, intellectuelle, analyste politique franco-syrienne depuis Damas, merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et un grand merci à monsieur le docteur Emadeddine Hamrouni qui nous a accompagnés depuis Paris. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans notre dernier programme, nous avons terminé la lecture et l'exégèse des versets de la sourate 46 du noble Coran, la sainte sourate Al-Ahraf. À partir de ce programme, nous commençons la lecture et l'exégèse des versets du chapitre 47 du Saint-Coran, la sourate Muhammad. La sourate 47 compte 38 versets. La sainte sourate Muhammad fut révélée au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, à Médine après l'Égir. Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la tradition musulmane a donné comme nom à la sourate 47, Muhammad, en référence au verset 2 qui dit « Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits, et améliore leurs conditions. » La sourate 47 consiste principalement à décrire les caractéristiques des croyants et des mécréants et leur destin dans l'au-delà. La sourate traite également du djihad et des combats contre les ennemis de l'islam. La sourate 47 fait également allusion à la position des hypocrites qui exécutaient les activités destructrices à Médine au moment de la révélation des versets de cette sourate du noble Coran. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 1 à 6 du chapitre 47 du noble Coran, la sainte sourate Mohammed. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 1 à 3 de la Sainte Sourate Mohammed, puis nous vous en donnerons la traduction.
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin de Dieu, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose leurs exemples aux gens. Dans le premier verset de la sourate Mohammed, le Coran souligne que Dieu le Très-Haut châtie les mécréants en annulant leurs bonnes actions. Et dans le deuxième verset de la sourate, le Seigneur dit qu'il acceptera les bonnes œuvres des croyants qui se sont soumis à la vérité que le messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, leur a apporté et effacera leurs méfaits. Le troisième verset explique qu'il en est ainsi parce que les mécréants ont suivi le faux, tandis que les croyants ont suivi la vérité émanant de Dieu le Très-Haut. Les mécréants tentent d'augmenter le nombre de leurs partisans et de renforcer ainsi leur rang face aux gens soumis au Seigneur et à son messager. Pour ce faire, il est donc possible qu'ils accomplissent des bonnes œuvres pour obtenir la faveur de leurs alliés. Mais Dieu le Très-Haut annulera leurs actions qui resteront vaines et sans effet sur leur sort renversé dans l'au-delà. Par contre, le Seigneur acceptera les bonnes actions des croyants qu'il récompensera tant dans ce monde que dans l'au-delà. En tout état de cause, les deux camps auront chacun sa part en fonction de ce qu'ils ont suivi, le faux ou la vérité. Ces versets du noble Coran nous apprennent que les ennemis de l'islam élaborent des plans pour porter préjudice à la religion et à la communauté des croyants. Mais leurs plans échoueront et la religion gagnera de plus en plus de terrain face à ses ennemis. La foi ne suffit pas à elle seule. Elle doit être accompagnée de l'apprentissage des enseignements religieux. En outre, les croyants doivent faire de bonnes œuvres et s'abstenir des péchés et des mauvais actes. Écoutons enfin les versets 4 à 6 de la sourate 47 du Noble Coran.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
Lorsque vous rencontrerez au combat ceux qui ont vaincu, frappez-en des coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions et le fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Pour dominer la communauté des croyants, les ennemis de la religion peuvent parfois recourir à la guerre. Le Saint-Coran dit que sur le champ de bataille, les fidèles doivent être puissants et déterminés pour se battre courageusement contre leurs ennemis. Mais lorsque les ennemis se rendent aux musulmans, ces derniers doivent faire preuve de la clémence et de la générosité envers les captifs. Ils doivent soit les libérer gratuitement, soit les libérer contre une somme d'argent. Ces versets nous apprennent que les croyants doivent être pacifiques et conciliants envers les infidèles qui ne déclenchent pas la guerre contre la communauté des croyants. Mais si les ennemis tiennent leurs armes pour se battre contre les fidèles, ces derniers ont le devoir de se défendre et de vaincre les ennemis de la religion et de la communauté des croyants. Les personnes qui perdent leur vie sur le champ de bataille pour défendre la religion et la communauté des musulmans sont des martyrs. Dieu le Très-Haut récompensera généreusement ces individus dans l'au-delà et accordera sa bénédiction à la communauté des croyants. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 47 du Noble Coran, la Sainte Sourate Mohammed. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.